Coupure de courant ce matin, notamment sur le Grand Nouméa. Peu après 5 heures, l'ensemble du réseau a été touché. L'électricité est revenue progressivement sur Nouméa où 41 000 clients ont été privés de courant. L'actualité politique, l'État ne respecte pas sa neutralité. C'est le point de vue des indépendantistes qui dénoncent le maintien de la date du troisième référendum et qui estiment que le document de l'État sur les conséquences du oui et du non est à charge contre le oui. Politique toujours, dans un courrier, Sonia Backès de son côté sollicite les Nations Unies pour faire respecter le processus d'autodétermination. En métropole, Emmanuel Macron en campagne face aux maires de France. Le président a prononcé un discours en clôture du congrès des maires de France. Le sport ce matin, c'est du rugby et Romain Ntamack de retour à l'ouverture du 15 de France. Peato Mauvaka, le Calédonien, au talon face aux All Blacks dimanche matin. La météo en Calédonie, vigilance orange, forte pluie et orage sur les Loyautés et jaune sur le reste du territoire. Les températures maximales sont en baisse à cause de la couverture nuageuse. Elles sont comprises entre 25 et 28 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, cette panne de courant sur le territoire.
Oui, panne survenue vers 5h ce matin, vous l'avez d'ailleurs peut-être constaté. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jérémy Ventura, responsable du service transport et système électrique à Enercal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Rythme Bleu. Alors, est-ce qu'on sait réellement ce qui s'est passé ce matin vers 5h? On connaît l'origine de cette panne de courant?
Oui, on a eu le temps d'analyser l'incident. Et l'origine, cette panne de courant est liée à un souci dans une centrale de production thermique. Donc la centrale qui alimentait à ce moment-là le Grand Nouméa.
Et donc il a fallu faire ce que l'on appelle un délestage, c'est ça?
Exactement. Quand il y a un souci sur un arrêt brutal de production, il faut couper automatiquement la consommation correspondante histoire de rétablir l'équilibre et de sauver en fait le réseau. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc l'incident a eu lieu à 6h13. On a donc ces automatismes ont pris quelques secondes et derrière les équipes ont été immédiatement mobilisées et on a pu réalimenter l'ensemble de nos clients à 6h28, donc un quart d'heure plus tard.
5h28, hein.
5h28,
ouais. Quel a été l'impact? Combien de clients n'ont pas eu d'électricité ce matin? Vous arrivez à quantifier? Alors, et les secteurs les plus touchés, notamment?
Effectivement, nous Enercal, on alimente pour le Grand Nouméa, on alimente des clients directement et on alimente également le distributeur EEC, qui, lui, alimente ses clients. Donc, je n'ai pas l'information sur le nombre de clients exactement impactés à ce moment-là chez EEC. On pourra vous la fournir prochainement.
Et pour les secteurs géographiques les plus touchés, c'est le Grand Nouméa essentiellement?
Oui, c'est le Grand Nouméa a été le plus touché et quelques communes de Brousse ont également été touchées par l'événement.
Un retour à la normale aussi rapide, c'est une prouesse technique pour Enercal ce matin?
Ça montre effectivement la capacité des équipes à se mobiliser très rapidement. On a des équipes qui marchent H24 pour justement faire face à ce type d'événement. Et puis ça montre aussi effectivement la qualité de la formation et des recyclages qu'on mène pour s'assurer que les équipes sont toujours un peu, on va dire, au top.
Jérémy Ventura, responsable du service transport et système électrique à Enercal, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous remercie et j'en profite quand même pour présenter nos excuses à tous les clients impactés par cette coupure et on est conscient des conséquences que ça peut avoir pour eux. Donc voilà, en tout cas, on met tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas.
Merci beaucoup Jérémy Ventura.
Merci.
On vous souhaite une bonne journée. Sur Nouméa et le Grand Nouméa, EEC de son côté a également constaté évidemment la rupture d'alimentation dont on parlait à l'instant de son fournisseur Enercal. Ça a eu lieu à 5h13. Écoutez les précisions de Christophe Thomas, il est chargé d'exploitation en astreinte à EEC.
À 5h13 ce matin, on a eu une rupture d'alimentation sur 4 des points qui alimentent Nouméa et le Grand Nouméa de la part de notre fournisseur Enercal. Je suppose suite à un incident chez eux. Ils nous ont rendu ces points d'alimentation, donc ils nous ont rendu la puissance. Et on a pu, dans la foulée, reconstruire le réseau, c'est-à-dire réalimenter chacun de nos clients à partir des départs réalimentés. Et donc à 5h53, on avait réalimenté à peu près 41 000 clients du Grand Nouméa.
Également du côté de la côte Est?
Alors exactement, et sa concession de Thio a été également impactée et actuellement elle est réalimentée.
Christophe Thomas, chargé d'exploitation en astreinte à AEC. Et ce matin, Radio Rythme Bleu a dû, durant quelques petites minutes, passer sur son programme de secours. Nous vous présentons évidemment nos excuses pour la gêne occasionnée. Venons-en au reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et le comité stratégique indépendantiste de non-participation qui réagit à la décision de l'État de maintenir la consultation du 12 décembre. Face à la presse, hier après-midi, il a accusé l'État de sortir de sa neutralité, Elisabeth Noir.
Le comité stratégique indépendantiste de non-participation, c'est la nouvelle instance qui réunit les quatre composantes du FLNKS, le MNSK, le MOI, la DUS, la FLS et l'USTKE pour cette campagne appelant à la non-participation. Ses représentants sont livrés à un véritable réquisitoire contre l'État qui a décidé de maintenir la troisième consultation au 12 décembre malgré tous les arguments développés par la mouvance indépendantiste. Il reproche donc à l'État d'être sorti de sa neutralité et cela dès après le premier référendum du 4 novembre 2018. Il cite plusieurs exemples dans un document lu par Marie-Pierre Goyetch du Parti travailliste.
Pour la deuxième consultation, l'État autorise unilatéralement les non-indépendantistes à afficher le drapeau national tricolore sur leur support de campagne officielle, alors que le code électoral l'interdit formellement. Les travaux d'élaboration du document pour les conséquences du oui et du non menés en commun, État indépendantiste et non-indépendantiste, ont été interrompus par la crise de Covid-19 de mars 2020 et n'ont jamais été finalisés avec le scrutin sans motif réel et sérieux.
Et selon le comité stratégique indépendantiste de non-participation, l'État a intensifié sa campagne en faveur du non après le deuxième référendum du 4 octobre 2020.
L'État décide unilatéralement d'élaborer un nouveau document étoffé sur les conséquences du oui et du non, sans même associer les partenaires politiques locaux afin d'orienter librement son contenu à charge contre le oui en évoquant le seul cas d'une indépendance sèche.
L'État n'envisage que le cas d'une indépendance sèche. C'est le reproche récurrent des indépendantistes qui veulent désormais discuter d'une indépendance avec partenariat ou avec association. Ils reprochent également à l'État son attitude dans le conflit de l'usine du Sud ou les propos du Premier ministre Castex qui, devant le Sénat, le 21 octobre dernier, a souhaité que le choix des Calédoniens soit celui de la France. Et l'on en vient enfin au grief essentiel, le maintien de la date du 12 décembre.
L'État décide de maintenir la date du 12 décembre 2021 en dépit des interférences avec la campagne présidentielle et malgré les impacts de la crise sanitaire à laquelle la Nouvelle-Calédonie sort profondément meurtrie. Tout ceci ne permettant pas d'organiser une campagne pour un oui éclairé et dans des conditions satisfaisantes à la hauteur des enjeux de cette ultime consultation. À cela s'ajoute un changement de méthode où le consensus laisse place dorénavant à la décision unilatérale et partisane de l'État sans même chercher à réunir le comité des signataires depuis 2019. Seule instance reconnue par l'accord de Nouméa pour suivre et veiller à sa mise en œuvre.
L'État veut-il vraiment décoloniser la Nouvelle-Calédonie ? Interroge alors les indépendantistes qui réaffirment leur refus de participer à un scrutin tronqué d'avance et ils posent leurs conditions sur l'après 12 décembre.
Nous le proclamons d'ores et déjà à l'État, la prise en compte des résultats de cette troisième consultation ne constitue pas en soi une base légale pour envisager la suite et pour renouer le fil du dialogue. Le FLNKS et l'ensemble des nationalistes se concerteront prochainement pour envisager la suite du processus et de rappeler à l'État ses responsabilités sur le processus de sortie de l'accord de Nouméa.
Alors les indépendantistes sont-ils prêts à participer à des discussions après le 12 décembre ? La réponse est apportée par Alosio Sacco, le président du RDO.
Le 13, le FLNKS viendra à la table de discussion avec son projet d'indépendance, pas moins. Si c'est pour parler de l'indépendance, nous serons au rendez-vous. Si c'est pour parler d'autre chose, nous ne serons pas là. Il n'est pas question de cautionner un tout autre projet. Nous serons à la table de discussion à condition qu'on parle de l'indépendance.
Et nous reviendrons sur ces déclarations tout à l'heure à 7h30. C'est Fidel Malaloa, membre du Parti travailliste et de ce comité stratégique indépendantiste de non-participation, qui sera notre invité du matin à 7h30. L'actualité politique toujours est Sonia Backès qui écrit à la présidente de la 4e commission de l'Assemblée des Nations Unies. La présidente de l'Assemblée de la Province Sud sollicite l'ONU pour faire respecter le processus d'autodétermination. Frédéric Joncheret.
Dans Dans ce courrier, Sonia Backès rappelle que depuis qu'il a été mis en place, le processus d'autodétermination se déroule selon les règles internationales en vigueur. La présidente de la province sud rappelle les dérogations exceptionnelles qui ont été mises en place, le gel du corps électoral qui exclut 30 000 personnes du droit de vote, l'inscription automatique des jeunes majeurs kanaks, inscription automatique refusée aux majeurs calédoniens ou encore bureau de vote décentralisé. Malgré ces dérogations, écrit Sonia Backès, les Calédoniens ont nettement affirmé leur attachement à la France et leur refus du projet indépendantiste en 2018 et 2020. La présidente de la province sud souligne ensuite que les partis indépendantistes ont décidé la non-participation à la troisième et dernière consultation pour des raisons exclusivement politiques et non plus sanitaires, puisque la situation liée à l'épidémie en Calédonie est aujourd'hui stabilisée. Et en conclusion, Sonia Backès appelle la présidente de la 4e commission de l'Assemblée des Nations Unies à faire respecter le processus d'autodétermination que l'ONU supervise depuis 3 décennies.
Un autre rendez-vous sur notre antenne, c'est Alcide Ponga qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Maire de Kouaoua et élu de la province nord, Alcide Ponga sera interrogé sur l'actualité référendaire. Alcide Ponga, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En bref, enfin, au chapitre des faits divers, un grave accident de la circulation s'est produit hier sur la route de Lansvata à Nouméa. Une voiturette a renversé un cycliste de 77 ans vers 16h. La victime a été transportée dans un état critique au Medipôle. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Quant au jeune conducteur de la voiturette, il n'était pas alcoolisé au moment des faits. Il est 6h passé de 43 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal, juste avant de passer à l'actualité sanitaire en Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
Mais ne te mets pas dans cet état, fais comme moi. Va chez AXA Agence Ixone, la galerie Centralma. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Cette année, Nespresso a été inspiré par les trésors de la forêt pour créer ses cafés de Noël en édition limitée. Venez succomber à nos offres enchantées en boutique ou sur le www.nespresso.nc. Offre soumise à conditions valables jusqu'au 26 décembre 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Nespresso. What else?
La couleur du moment s'invite chez Sun & City. Couleur chaleureuse et très tendance, le corail dynamise et sublime toutes vos tenues. En petite touche ou total look, venez trouver la pièce fraîche et optimiste. Sun & City, à la galerie Port-Plaisance.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite du journal, Nicolas Legrand.
Et l'actualité sanitaire en Nouvelle-Calédonie, pas de nouvelles victimes du Covid ces dernières 24 heures sur le territoire. Le point sanitaire communiqué hier par le gouvernement fait état de 273 morts depuis le 9 septembre. Notez que 15 patients sont actuellement soignés en service de réanimation et que 30 cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Le taux d'incidence est donc de 106 pour 100 000 habitants. Du côté de la vaccination, 72,03% de la population calédonienne de 12 ans et plus dispose désormais d'un schéma vaccinal complet. Le docteur Dominique Chazal interdit d'exercice de la médecine durant 5 mois. Sa suspension lui a été signifiée par le gouvernement hier après-midi, Frédéric Joncheret.
La décision lui a été signifiée hier à 15h, notamment par le porte-parole du gouvernement, Yannick Slamette, mais elle avait été votée à l'unanimité dès mercredi par les membres du gouvernement. Elle ferait suite à des signalements de manquement à l'exercice de sa fonction et de mise en danger de patients remontés par la DAS à l'exécutif. Le gouvernement, en tant qu'autorité sanitaire, disposait de 3 jours pour signifier à l'intéressé cette suspension temporaire d'exercice d'une durée maximale de 5 mois. C'est donc chose faite. Des dizaines de personnes de Réinfo Covid et d'autres collectifs étaient présentes pour signifier leur soutien au docteur Dominique Chazal. Le médecin a fait par ailleurs l'objet d'une suspension de conventionnement de la part de la CAFAT. Sollicité, le docteur Chazal n'a pas souhaité s'exprimer sur notre antenne.
Et puis Force Ouvrière maintient son mouvement devant le gouvernement. Le syndicat est mobilisé depuis mercredi pour s'opposer à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire. Une centaine de manifestants étaient présents hier et la mobilisation devrait se poursuivre aujourd'hui.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Le sujet revient sur le devant de la scène. Êtes-vous favorable à l'abrogation de l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 33% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le report de la déclaration de politique générale du président du gouvernement traduit un problème de collégialité. Ils sont 67% à penser que ce n'est pas le cas. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. La facture d'eau des habitants de Païta va changer, ou plutôt son mode de calcul. La tarification de l'eau était en effet le point principal inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de la commune hier soir. Avec la délibération adoptée, les habitants de la commune paieront désormais au plus près de leur consommation. C'est ce que nous a expliqué le maire de Païta, Willy Gatuo.
Je n'irai pas jusqu'à parler de révolution, mais presque. Et j'aime à préciser que c'était un engagement que j'avais pris et cet engagement est tenu. Il s'agit de quoi ? De modification du mode de facturation de l'eau sur Païta. Le dispositif actuel, c'était une facturation par tranche. Je donne un exemple. Une première tranche qui est comprise entre 0 et 40 mètres cubes était facturée systématiquement aux administrés qu'ils aient consommé 0 ou 39 mètres cubes. Ce déséquilibre au détriment des administrés a été réparé. Désormais, les administrés paieront au litre consommé.
Et autre changement sur la facture d'eau, la suppression d'une surtaxe de 10 francs qui servait jusqu'alors aux travaux d'adduction en eau potable.
10 francs qui jusque-là étaient perçus par la commune via la société d'économie mixte qui est la sœur. 10 francs qui étaient perçus et qui servaient effectivement a effectué quelques travaux d'AEP sur la commune de Païta permettant de ramener dans le périmètre de concession et donc du service public un certain nombre de secteurs de la commune et dernièrement la tribu de Nanouni.
Cette tarification du mode de calcul a constitué l'essentiel des décisions du conseil municipal de Païta, marqué également par l'attribution de plusieurs subventions et la validation d'un avenant qui encadre les subventions versées aux établissements de la DEC sur la commune. Vous l'avez sans doute remarqué en empruntant la Save Express, les travaux de la route d'accès de l'échangeur de Kenuin sont presque terminés. Des travaux qui ont été effectués majoritairement de nuit pour éviter de perturber le trafic. La plus grosse partie du chantier sera terminée d'ici la fin du mois, c'est ce que nous a confirmé Guillaume Derken. Il est chef de la subdivision sud à la direction provinciale de l'aménagement.
On est sur la fin des travaux, on va dire, de VRD sur la bretelle même, sachant que la semaine prochaine débutent les travaux au niveau du giratoire de Kinmin, donc travaux de nuit encore. Donc on peut dire que pour fin novembre, l'ensemble des travaux de VRD seront terminés. L'objectif était bien de libérer en termes de perturbation cet axe de voirie qui est très fréquenté à partir du 1er décembre pour les fêtes de fin d'année. Restera en début d'année la mise en place de l'éclairage public qui est en cours d'approvisionnement. Donc en attendant, on a de l'éclairage provisoire sur la bretelle. Et je pense fin janvier, courant février, on pourra mettre en place l'éclairage définitif.
Et rappelons que ces travaux d'un montant de 60 millions de francs sont financés aux deux tiers par le groupe Kenuin, qui à l'issue du chantier doit donner ce qui était une route privée à la province sud. Une station mobile doit également voir le jour à cet endroit fin 2023. Il est 6h49, la publicité avant l'actualité en métropole, Emmanuel Macron qui est plus que jamais en campagne.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Vous souhaitez vendre rapidement votre voiture à sa juste valeur ? Alma Méto Occasion vous propose une reprise immédiate. Repartez avec votre chèque. Alma Méto Occasion rachète tous les modèles, toutes les marques, sans condition d'achat d'un autre véhicule. Renseignements au 41 41 48 ou www.occasion-automobile.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Chauffe-eau Sonnerie, bonjour.
Oui, bonjour Sonnerie. Je vous appelle, c'est pour vous dire, j'ai installé votre nouveau chauffe-eau solaire là. Lorgue, c'est de la balle là, carrément, hein. C'est méga qualité.
J'ai pas compris, monsieur, pouvez répéter ?
J'ai dit c'est qualité.
C'est culotté ?
Mais non, j'ai dit qualité.
Je suis désolé, monsieur, le réseau, il est vraiment de mauvaise qualité.
Lorgue, mais...
Les chauffe-eau Sonnerie, c'est qualité.
Ah, ben voilà.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole, et je le disais, Emmanuel Macron est en campagne face aux maires. Le chef de l'État a prononcé le discours de clôture du Congrès des maires de France. Un rendez-vous incontournable à 5 mois maintenant de la présidentielle. Jacques Serret assistait à ce discours pour Europe 1. Le président s'est montré offensif tout en jouant la carte de la séduction.
Oui, en 2017, juste après son élection, c'est sous les sifflets qu'il était accueilli. Cette fois, c'est par des applaudissements. À la tribune, Emmanuel Macron ne se prive pas d'y faire allusion.
Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu des préjugés. J'assume ne pas avoir été maire. C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps. Il se peut qu'il ait eu le même défaut.
Rire dans la salle, c'est alors le début de l'opération séduction du président, pas encore candidat. Face à ses maires, il loue leur rôle essentiel durant la pandémie.
partout en France, vous avez pris des initiatives, été aux avant-postes de manière très concrète. Chaque jour, chaque nuit, chaque week-end.
Des remerciements et puis la promesse de fermeté alors que les élus locaux sont de plus en plus victimes de violences.
La réaction doit être immédiate et la sanction décisive. Ça n'est pas de la solidarité, c'est du devoir. C'est la République dont nous parlons.
Un discours de plus d'une heure conclu par ces mots.
Il y a dans le beau mot de maire l'anagramme du verbe aimer. Parce qu'au-delà de tout ce que vous faites, il y a un engagement qui est de cœur et d'âme.
Emmanuel Macron ne se cache presque plus d'être en campagne.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La crise de la pêche entre Paris et Londres est-elle en train de se terminer par une défaite française? C'est en tout cas l'impression que pourrait donner la ministre de la Mer, Annick Girardin. Elle promet en effet d'indemniser les pêcheurs dont les navires devront rester à quai. Ce n'est pas du tout ce qu'attendaient ces pêcheurs français. Ils voulaient, eux, des licences pour pouvoir continuer à travailler dans les eaux britanniques, Charles Guyard.
Oui, c'est un tableau peu optimiste qu'a dressé Annick Girardin ce matin en ouverture des assises de la mer dans le Finistère. Baisse des quotas et surtout toujours ces licences accordées au compte-gouttes par Londres aux pêcheurs français pour prélever dans les eaux britanniques. Il en manque 54 selon la ministre. Mais la principale annonce, c'est cette enveloppe de 40 à 60 millions d'euros prête à être débloqué pour financer un vaste plan de sortie de flotte. Autrement dit, ceux qui accepteront de renoncer toucheront des compensations. Pour Loïc Escoffier, armateur à Saint-Malo, c'est un vrai renoncement, alors que la France était présentée comme la grande gagnante des accords du Brexit il y a un an.
On nous dit tout va bien, vous inquiétez pas, vous pouvez vous projeter. Et là, comme ça, là, en un claquement de doigts, on nous dit, ah ben non, en finale, on s'est trompé, vous êtes concerné par le Brexit et puis vous êtes dehors.
Là déjà, on a reçu des documents qui stipulent des changements de réglementation sur les bulots, sans nous concerter. Et puis, qui nous dit que l'année prochaine, ils ne vont pas nous dire, bon, bah, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est reconductible tous les ans. Donc, en fait, ils ne veulent plus de nous du tout.
Une exclusion des eaux britanniques pour Loïc Escoffier et son armement de 3 bateaux, c'est 80% de son chiffre d'affaires qui disparaît. Conséquence, lui et ses 30 à 35 marins embarqués se retrouveraient alors contraints de rester à quai définitivement.
Charles Guyard à Saint-Malo pour Europe 1 et Annick Girardin précise ce matin pour nous que les négociations se poursuivent pour tenter d'obtenir des licences pour les pêcheurs normands et bretons. Et puis enfin, par un ultime vote du Sénat quasi unanime, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi emblématique de la majorité présidentielle pour lutter contre la maltraitance animale. Le vote a été acquis par 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Au menu de ce vaste texte figure l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums, la fin de la vente des chiots et des chatons en animalerie et des peines durcies pour les sévices ou les abandons. Il est 6h passé de 54 minutes, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant le sport et on parlera notamment de rugby et de la composition du 15 de France pour le match face aux All Blacks dimanche matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Construisons notre pays, économisons l'énergie. T'as bien dit 7 ans ?
Oui, 7 ans. Ford s'engage à offrir une garantie de 7 ans sur 3 de ses modèles. Le Ford Ranger, le nouveau SUV Ford Kuga et la Ford Puma. 7 ans.
C'est la preuve qu'ils ont confiance en leur modèle ? C'est Ford.
C'est Ford, tu veux dire ? C'est le seul constructeur en Nouvelle-Calédonie à offrir 7 ans de garantie. 7 ans, qui dit mieux ?
Personne. Même toi, chérie. Je suis pas sûre que tu t'engages pour 7 ans.
Découvrez vite l'offre 7 ans de garantie offerte Ford Protect ou 100 000 km, pièces, main-d'œuvre, assistance. Ford.nc pour se renseigner, réserver et acheter.
Avec la nouvelle carte Air Calin American Express, prenez de l'avance sur vos futurs voyages. Réglez vos achats du quotidien avec votre nouvelle carte et grâce au nouveau programme de points Air Calin, cumulez des points Air Calin, puis utilisez-les librement pour tous vos achats chez Air Calin. Profitez, nous vous offrons jusqu'à 10 000 points Air Calin de bienvenue. Souscrivez dès aujourd'hui sur www.americanexpress.nc ou en appelant le 463-900.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et on termine ce journal avec le sport et tout d'abord du rugby. La composition du 15 de France qui affrontera la Nouvelle-Zélande a été dévoilée hier soir, Frédéric Joncheret.
Et comme attendu, le sélectionneur Fabien Galthié a confirmé le retour de la charnière toulousaine Antoine Dupont, Romain Ntamack, reléguant de facto Mathieu Jalibert sur le banc. Il a titularisé également au centre Jonathan Danty aux côtés de son ancien camarade du Stade français, Gaël Ficou. Fabien Galthié.
Des raisons, bien sûr, c'est un objectif de performance. L'expérience collective est importante. On a pu, pendant ces 10 entraînements et ces test matchs, associer Romain et Mathieu. Mais on a pu aussi associer Gaël et Jonathan Danty sur les matchs. Ils ont joué 3 ans ensemble au Stade français. Ils ont beaucoup d'expérience collective. Antoine Dupont a beaucoup d'expérience collective avec Romain Ntamack. Donc, on a choisi cette formule pour commencer le match, pour attaquer le match. C'est surtout, je dirais, un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut.
Ajoutons que Cameron Wauquiez est confirmé en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. La troisième ligne sera composée d'Anthony Jelonge, de Grégory Aldrit et de François Cross. Celle-ci est considérée plus expérimentée et plus performante individuellement et collectivement, selon Galtier. Le talonneur calédonien Peato Mouvaka va bien connaître sa deuxième titularisation en l'espace d'un an. Voici donc le 15 de France complet qui se mesurera aux All Blacks, Jaminet, Penaud, Ficou, Danti, Villiers, Ntamack, Dupont, Jelonge, Aldrit, Cross, Willemse, Wauquiez, Antonio, Mouvaka et Baye. Et de leur côté, les All Blacks seront privés de leur star, Boden Barrett, victime d'une commotion lors de la défaite en Irlande le week-end dernier. Il sera remplacé à l'arrière par son frère, Jordi Barrett. Quant à Aaron Smith, il fera son retour dans la charnière aux côtés de Richie Mounga. Autre retour, celui du talonneur Dane Coles et du flanqueur Sam Kane avec le numéro 8, Hardy Savea.
On passe au tennis, Frédéric Joncheret et Alexander Zverev qui rejoint Novak Djokovic en demi-finale du Masters à Turin.
L'Allemand s'est qualifié dans le dernier carré après son succès sur le Polonais Hubert Hurkacz 6-2, 6-4. C'est sa troisième qualification consécutive en demi du Masters. Il retrouvera pour la cinquième fois de l'année Djokovic. Le numéro 1 mondial l'a emporté à 3 reprises, mais il y a 3 ans, il s'était incliné face à Zverev en finale du Masters quand au quatrième billet pour le dernier carré. Il sera distribué au vainqueur du duel de demain entre le russe Andrei Rublev et le norvégien Casper Ruud. Le vainqueur retrouvera Daniil Medvedev en demi.
Du rallye, pour vous dire que le sacre se joue ce week-end à Monza en Italie.
Le titre mondial se dispute lors de la 12e et ultime manche du championnat entre les équipes Toyota, Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Le français vise un 8e titre mondial. Il possède 17 points d'avance sur le britannique et rien n'est encore fait, puisqu'il est encore possible de prendre 30 points lors de cette dernière manche, 25 pour la victoire et 5 pour le meilleur temps de la Power Stage. Autant dire que les scénarios sont encore nombreux, mais globalement, il faut qu'Ogier termine devant Evans et finisse dans les 3 premiers ou à l'une des 6 premières places et prenne des points en Power Stage. La première d'essai spécial se courra à partir de 17h30.
On sort les calculatrices. Le football, pour vous dire que les Parisiennes se déplacent chez le Real Madrid à partir de 7h pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Les joueuses de la capitale sont pour l'heure en tête de leur groupe avec 3 points d'avance sur les madrilènes. Et enfin, on termine avec un mot de sport sur le territoire. L'Institut océanien d'haltérophilie de Boulari a été, Frédéric, entièrement rénové entre le 18 octobre et le 10 novembre.
La structure qui a vu le jour en 2009 était fermée depuis le confinement de mars 2020. Elle est en capacité à présent de devenir un hôpital en cas de nouvelle vague de contamination au Covid, comme en témoigne Lionel Pagelois, adjoint au maire du Mont d'Or en charge du sport.
Le gouvernement qui avait demandé aux communes d'avoir un centre d'accueil pour accueillir éventuellement les patients de la Covid-19 au cas où si on aurait un deuxième ou troisième rebond. Donc cette demande a été bien accueillie, a été bien acceptée par le maire de la ville qui a décidé effectivement de rénover déjà les chambres pour être prêts. Si les hôpitaux de demain sont en saturation, on pourra ouvrir pour la Covid-19.
Et sur un plan sportif, il y avait aussi un intérêt à tout refaire, hein.
Tout à fait, puisque comme vous le savez, depuis l'an dernier, on a été labellisé justement par le comité technique olympique sportif concernant les Jeux de 2024. Donc on pourra accueillir les athlètes de la région.
Et l'Institut comprend 3 lieux de vie, 17 chambres, dont 4 pour des personnes à mobilité réduite. Il devrait retrouver sa fonction de centre de préparation d'haltérophilie et de force athlétique pour les athlètes de la région dès l'année prochaine, afin de leur permettre de préparer les Jeux Olympiques de 2024.
Et à terme, le site sera aussi mis à disposition de la Maison des associations culturelles et sportives pour accueillir les délégations jumelées avec le Mont d'Or.
La 7, c'est 5 magasins. Ducos, Bois FR, Païta, Coné et Lifou. La 7, toujours plus proche de vos chantiers. Plus d'infos sur 7.nc. La 7, le tout en un des matériaux de construction, vous offre la météo.
Alors Thierry, on a parlé de la panne d'électricité. Évidemment, ce matin, là, de l'électricité, il pourrait y en avoir dans les nuages.
Oui, Nicolas, parce que nous sommes en vigilance orange avec de fortes pluies et des orages. Ce sera sur les Loyautés et une vigilance jaune sur le reste du territoire. Des averses orageuses circuleront donc sur le territoire aujourd'hui. Elles deviendront plus intenses sur les Loyautés et donneront des cumuls importants. De fortes rafales pourront se produire sous averses. Ça sera cet après-midi et l'amélioration par le nord en fin de journée. Ce matin donc, la dégradation se confirme avec un ciel devenant très très nuageux à couvert. Les averses qui circulent se font plus fréquentes et parfois orageuses, notamment au Loyauté et sur le nord. Au Loyauté et sur la pointe sud, le vent, lui, d'est-sud-est soufflera autour des 10 nœuds, puis 5 à 10 nœuds, mais des accélérations pourront se produire sous averse. Ailleurs, il soufflera autour des 10 nœuds sur le sud-est, voire 10 à 15 nœuds à la fin sur la côte ouest. Cet après-midi, le temps restera maussade. Les averses orageuses se maintiendront au Loyauté, sur le sud et l'île des Pins. Elles se développeront également sur le relief et pourront localement gagner le littoral. Les Andées seront progressives et plus rares sur le nord, mais le ciel restera gris. Le vent se renforcera autour des 15 nœuds de secteur sud-est avec des rafales attendues à proximité des averses. Sur le nord-est, il se rapproche des 10 nœuds. On termine, Nicolas, pour cet après-midi donc, et par les températures maximales. Elles sont en baisse à cause de la couverture nuageuse comprise donc entre 25 et 28 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce journal.